France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Stanislas de Barbérac. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 1984. Et je suis ténor.
Aujourd'hui, Stanislas de Barbérac évoque ses souvenirs de jeune maîtrisien, et notamment le difficile passage de la mue.
Moi, j'ai mué très tard. J'ai mué, on était en tournée en Allemagne, et je devais avoir 13-14 ans. J'étais soprane, en plus j'avais des solos à faire, et c'était bien la merde, parce que tout d'un coup, plus rien, quoi, j'y arrivais plus. Et donc j'ai passé le reste de ma tournée sur une chaise, quoi. Donc j'ai dû me taper l'orgue toute la tournée en Allemagne à transporter le truc parce que je servais plus qu'à ça. Donc celle-là, je m'en souviens. Mais j'ai mué vers 13-14 ans, ce qui est plutôt assez tard, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on travaille la voix quand on est petit, donc on essaie de pousser des gens un peu le plus loin possible. Après, c'est un passage, hein, c'est sûr. Hein. Après, j'ai redécouvert une voix que je connaissais pas. Je savais pas trop si j'étais ténor, baryton, on essaye.
Et c'est triste, le moment où on mue et où
ah oui,
tout
c'est
d'un
triste.
Coup, ça vous
Moi,
échappe.
J'étais hyper triste. J'étais hyper triste parce que je voulais chanter mes trucs, quoi. Et que c'était pas raisonnable de continuer, je me souviens de ça. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va durer longtemps. On sait pas, quoi. Surtout quand on travaille sa voix, on sait un peu... on entend. On sait que ça va être long. Ah, là, ça revient. Non, c'est pas encore ça. Donc, j'ai été patient. Et puis, voilà.
Et dans ces cas-là, on reste dans la maîtrise ou
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Ouais, moi, je suis resté dans la maîtrise. Ouais. Puis après, j'ai repris petit à petit avec ma voix d'adulte, quoi. Mmh. En faisant attention, pas trop pousser les registres là où je savais pas où je pouvais aller. Mais ouais, j'ai repris, ouais, bien sûr.
Quand vous êtes comme ça, adolescent, est-ce que vous vous souvenez des rêves que vous aviez? Est-ce que vous vous projetiez? Est-ce que vous vous disiez j'aime le public quand il est là, quand il nous applaudit, que ce soit au rugby ou que ce soit ou que ce soit à la maîtrise? Ouais. Enfin, je veux dire, dans quoi? Quels étaient vos rêves?
Ado, je chantais pas mal et puis surtout je commençais à vouloir aller ailleurs que la maîtrise parce que je faisais partie des grands que j'avais donné. Bon. J'étais là, j'avais une voix naturelle de ténor, donc puis je lisais la musique, donc ça les aidait d'avoir un pilier dans un pupitre qui est là, qui connaît aussi les rouages de la structure, Donc je suis resté parce que j'étais content d'y rester, mais j'avais envie de me dire tiens, si j'allais dans un autre chœur à Bordeaux d'adulte pour faire un peu d'autres répertoires où ça aille un peu plus vite aussi musicalement, etc. Donc ça commençait à me titiller, mais j'avais aucun rêve de chant professionnel, vraiment aucun, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Moi je voulais vraiment être journaliste.
Et pourquoi vous vouliez vraiment être journaliste alors?
Je trouvais qu'il y avait plusieurs choses à explorer, c'est le métier qui me parlait le plus pour être sur le terrain, analyser des événements, aller à l'étranger, peut-être être grand reporter, être sur des zones sensibles. J'avais ces envies-là d'être au plus près des gens, pour avoir des témoignages, j'avais ce désir-là vraiment. Vraiment, je me donnais à fond pour réussir mes concours de journalisme. J'avais passé déjà l'écrit une fois que j'avais raté de peu. Parce que c'était chaud, ces écoles de journalisme. Je me souviens que la deuxième fois, j'ai été reçu à l'écrit. J'étais hyper content à Bordeaux. Sauf que j'étais 39e ou 40e et il y avait 30 places. Donc, ça allait être chaud à l'oral. Et je m'étais planté en culture G à l'oral. Et il y avait un sujet libre. Et évidemment, j'avais parlé de musique et ils avaient été passionnés par mon... Vraiment, ils m'avaient dit, c'est passionnant vos trucs sur la musique. J'avais déblatéré pendant 20 minutes sur la musique classique, sur certains compositeurs que j'aimais, etc. Et il y a un mec du jury qui m'a dit, mais monsieur de Barbérac, en fait, pourquoi vous voulez être journaliste? Pourquoi vous voulez pas être musicien professionnel? Et j'ai pris mon sac et je suis parti. Et je lui ai dit, vous avez raison. Et j'ai fermé la porte. Je sais plus qui était ce monsieur, mais j'aimerais bien lui dire merci un jour. Et après, je suis allé au conservatoire et j'ai eu mon premier cours de chant et ça a été un coup de foudre, quoi. Je me suis dit, c'est dingue la vie. parce que je savais pas que j'avais cette voix en moi, parce que mon prof qui est arrivé, qui est toujours mon prof, qui s'appelle Lionel Sarrazin, tout nouveau prof au conservatoire à Bordeaux. Et en une demi-heure, on a fait 3 sons, il m'a dit « Rechante-moi ce que t'as fait au concours, je me souviens plus ». Et je connaissais rien, quoi. Je connaissais rien à l'opéra, au chanteur, j'étais incapable. Enfin, je connaissais Pavarotti et Domingo, quoi. C'est pour vous dire la culture que j'avais du monde de l'opéra. Il me dit, mais tu connais pas Giacomini, Corelli, des vieux ténors? Et je dis, mais non, Corelli, pour moi, c'était un compositeur. Et j'ai découvert l'art lyrique, à proprement parler, là. Et ça a été un coup de foudre.
Ce moment comme ça de séisme, ces coups de foudre pour votre voix propre, en fait, c'est quoi? C'est une sensation aussi, une expérience physique?
Ouais, complètement. C'est plus une expérience sensorielle, charnelle, avec mon corps et ma voix. Et puis surtout, quand on te dit, tiens, fais ça, baisse un peu ton larynx, respire un peu comme ça, on se dit, oula, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est compliqué? Et puis tout d'un coup, il y a un son qui sort et ça fait du bruit. Et on se dit, waouh, ça c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, c'est une sensation charnelle, quoi, comme un plaisir. Et je me suis dit, waouh, c'est moi qui ai fait ça. C'est intéressant ce truc-là. Et en fait, on se sent à poil. Et puis on voit dans l'œil du prof ou de l'élève qui est là, on dit un recul en se disant, ah ouais, il a fait un truc. On remarque l'effet que ça fait sur les autres. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On se dit, bah attends, je me suis mis à poil, j'avais l'impression de faire un truc vachement intime, parce que c'est une découverte, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et ça interpelle les gens et ça m'interpelle moi. Donc c'est ça qui m'a plu. C'est là où je dis qu'il y a le coup de foudre, c'est que voilà, c'est ce bruit qui fait un effet multiple. C'est comme si on vous donne un pinceau et qu'on dit, bah tiens, fais-moi 3 traits sur la toile, et puis on se rend compte qu'on a un don, qu'on sait faire un paysage alors qu'on n'a jamais appris. Voilà, c'est un truc, on se dit, mais attends, j'ai un truc en moi, il faut que je m'en serve, parce que même moi, ça m'a interpellé. Je sais pas où ça va me mener, évidemment, parce que je connaissais pas le business, comment c'était, la qualité des gens autour, qu'est-ce qu'il faut être pour être chanteur, pour être soliste ou pour être dans un chœur. Enfin, moi, j'avais aucune idée d'où j'allais. Enfin, je me suis dit, je veux être chanteur. Je voulais pas être soliste ou je veux faire de l'opéra, quoi. Donc, je suis passé par plein d'étapes, justement, pour connaître le métier.
Mais comme ça, en arrivant dans la classe de Lionel Sarrazin, quasiment de façon immédiate, vous vous dites, ce sera ma vie.
Ouais.
Le coup de foudre, il est aussi à cet endroit-là.
Ah ouais. Et en fait, avec le recul, je me souviens qu'au bout de 2-3 cours, je me suis dit, il faut que je fasse que ça, sinon j'y arriverai pas. J'ai ce souvenir-là, en prenant le tram pour aller à la fac, en révisant mes fiches, en ayant 50 journaux dans les mains, essayant de faire mes chiffres pour mon concours, en disant, bon allez, je me donne encore un an, je présenterai encore 2-3 concours de journaliste l'année prochaine, parce que bon, le champ c'est nouveau, je sais pas où je vais, c'est complètement ridicule. Et à chaque fois, je me disais, et c'est pour ça que je rappelle ce moment où je me souviens très bien, j'étais dans le tram, j'étais en train de lire un truc, et je me dis, non mais il faut que je fasse que ça, ça a l'air compliqué ce métier, et je pense qu'il faut que je consacre mon temps au chant, à l'apprentissage, à la musique, au solfège, à rattraper le temps perdu sur ma culture opératique, à découvrir des partitions, écouter des trucs, ça va me demander un temps fou, il faut que je fasse que ça, quoi.
Et vos parents, ils vous disent, vas-y.
J'ai eu cette chance-là. Vraiment une grosse chance. Je sais pas pourquoi. Je les ai toujours remerciés, ils m'ont toujours soutenu. Je pense qu'ils ont vu que j'étais à fond, quoi. Que c'était pas une blague. Que c'était pas un caprice. Ils ont vu que je me lançais là-dedans à corps perdu et que j'étais vraiment passionné, qu'il y avait un truc qui s'était passé. Ils voyaient que je m'investissais. Surtout qu'assez vite au conservatoire, on a monté avec quelques potes du conservatoire de ma classe une compagnie lyrique. C'est devenu assez sérieux. On faisait nos affiches, on allait chercher nos décors, on faisait des flyers dans les rues, on montait nos spectacles, on avait les crocs, quoi.
C'était Opéra Bastide ?
C'était Opéra Bastide, ouais. On était un groupe de 8, puis 10, puis 15, et ça a marché fort. On avait un public, Béatrice Uriamonzon était notre marraine, donc quand elle était là, bah, c'était plein, évidemment, parce qu'elle chantait plus à l'Opéra de Bordeaux, donc les gens étaient ravis de la voir à Bordeaux, et puis elle s'investissait avec des jeunes chanteurs, enfin, c'était formidable. On faisait tout de A à Z, quoi. On allait chercher nos subventions, on a monté nous-mêmes nos trucs à la préfecture, on avait 21 ans, enfin, on avait envie de tout casser, quoi, parce qu'on avait envie de chanter. Parce qu'au conservatoire, on avait quoi? 2 heures de solfège, 3 quarts d'heure de cours. Donc, dans la semaine, ça fait court.
Et alors, dans la semaine, vous êtes boulimique, on l'entend bien. Vous avez envie de découvrir plein de choses. Ça passe par écouter des disques, rattraper le temps perdu, vous le dites, etc. Mais si on parle maintenant de technique vocale, parce que vous arrivez, j'allais dire, ténor un peu brut de caisse. Et puis, vous allez raffiner, évidemment, votre rapport à votre instrument. Vous avez parlé de Lionel Sarrazin qui vous dit, oui, un peu le larynx, le voile du palais. Enfin, c'est quand même pas évident, je veux dire, le chanteur est acteur de son propre instrument. C'est difficile aussi de connaître cet instrument qui est à l'intérieur de soi. Comment vous avez fait connaissance? Est-ce que vous vous rappelez aussi de ça, le développement véritablement de la technique?
C'est dur.
Du souffle et...
Je me souviens que c'était dur d'un point de vue aussi purement cérébral, parce que c'est énormément d'informations à gérer. Même aujourd'hui, alors que j'ai beaucoup d'outils, que c'est mon métier, que j'ai de l'expérience, etc., c'est encore cérébral, le chant, malgré tout. Le jour où ça devient complètement inné et tout, c'est que c'est gagné, ou alors c'est qu'on n'a rien compris, parce que faut quand même toujours penser à sa technique. Le chant, c'est très aléatoire. Chacun est libre d'interpréter sa technique comme il l'entend, évidemment. Moi, j'ai besoin de savoir ce que je fais, parce que j'ai pas une voix facile du tout. J'ai une voix qui s'est construite.
C'est-à-dire pas une voix facile?
La voix de ténor, c'est pas une voix facile. Déjà, parce que c'est pas une voix naturelle, c'est une voix qu'on construit. C'est-à-dire que c'est des cases, le passage, la voix de tête, la voix mixte, la voix de poitrine pour aller vers l'aigu, etc. Et moi, j'ai des cordes un peu spéciales, je l'ai toujours ressenti, parce que j'ai toujours ressenti qu'il fallait que je passe par des étapes pour ménager ma voix, pour aller vers le répertoire vers lequel je tends aujourd'hui. Mais bon, j'ai 40 ans dans un mois, et que j'ai commencé le chant, j'avais 20 ans. Donc, c'est 20 ans dans lesquels il faut manger, faire une carrière... gagner sa vie, trouver le bon répertoire, etc. Et moi, j'ai jamais eu une voix facile, j'ai jamais une voix hyper aiguë, donc c'était toujours compliqué de trouver le répertoire qui n'allait pas m'abîmer et ne pas chanter trop tôt le répertoire vers lequel je tends maintenant, qui est un répertoire lourd, dans lequel je me sens de mieux en mieux, parce qu'aussi le temps a fait que... Bon, ça, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que choisir le bon répertoire au bon moment, tout ça, c'est très compliqué dans la vie d'un artiste, de ne pas se brûler les ailes, et parfois on pense que, et puis on se brûle les ailes quand même. À parfois être très précautionneux, c'est pas bon non plus. Bon, bref. Mais au moment où j'ai appris le chant, pour revenir à vos premières questions, c'est de l'horlogerie, le chant lyrique. C'est vraiment parce que c'est pas naturel de passer un orchestre, de faire ce bruit, d'être à la fois efficace dans un moment piano, parce qu'il faut que au Met on vous entende à 50 mètres au fond de la salle, même si les acoustiques aident plus ou moins. Voilà, il y a tout ça, c'est quand même un truc spécial, c'est pas naturel d'utiliser ses cordes vocales comme ça. Donc il faut de la technique pour se préserver. Et puis surtout que quand on n'y connaît rien à l'opéra, comme c'était mon cas, et qu'on entend des airs de Carmen, ou qu'on entend un air de Tchaïkovski, de ténor, qu'on trouve ça dingue, mais on se dit, mais attends, j'ai pas encore la voix, pourquoi j'y arrive pas, ou on essaie de chanter le truc, et au bout de 10 minutes, on n'a plus de voix, et que là, votre prof, il dit, mais attends, c'est normal, t'as pas encore de technique, t'as pas de bagage, tu peux pas chanter, ça, c'est tel répertoire, donc on se dit, alors attends, ça, je peux pas chanter tout de suite, pourquoi je peux chanter un Mozart, et en même temps, quand je fais certains Mozart, j'y arrive pas, je dis, mais oui, parce que c'est pas ta voix, mais c'est quoi ma voix? Et on apprend, moi j'avais pas conscience qu'il y avait des ténors lyriques, qu'il y avait des ténors lyriques légers, qu'il y avait des ténors dramatiques, j'y connaissais rien. Donc on se dit, alors attends, je peux pas chanter ça, je peux pas chanter ça non plus, et on a envie de chanter ce qu'on aime, donc on essaye, et c'est tout ça qui est compliqué.
Et Lionel Sarrazin, est-ce que c'est un professeur qui chante avec vous, et qui montre comment...
Ouais. Lionel, c'est une basse, donc il a été chanteur, il a eu une carrière, etc. Alors, l'imitation, non, parce qu'il n'a jamais pu faire des exemples de ténor, mais c'est un fin connaisseur des cordes vocales, de la physiologie du chant, de l'aspect aussi émotionnel, de qui on est en tant que chanteur, en tant que personne. C'est surtout ça, je pense que c'est grâce à lui aussi qu'est née la passion, c'est-à-dire d'inscrire d'abord le bonhomme dans le chanteur plutôt que l'inverse, et de ne pas calquer des choses toutes faites, chante dans le masque, chante machin. Enfin, il n'y a jamais eu comme ça des théories du chant chez Lionel. En tout cas avec moi, hein, parce qu'aussi le prof s'adapte à
le
qui
bon
est...
prof.
Ouais, c'est vrai. à qui il a en face. Et on se rend compte maintenant, moi je prends quand même toujours pas mal de cours où j'échange beaucoup avec lui quand ça va et quand ça va pas, sur le chant, sur ma vie, sur voilà, c'est Lionel, c'est devenu un ami. C'est un ami qui est prof de chant. Je le vois plutôt comme ça. Et c'est important, hein. Enfin, tout le monde n'a pas cette chance. Il y a pas mal de chanteurs qui ont plusieurs profs en même temps parce que en chacun ils trouvent ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai toujours eu Lionel. J'ai jamais vu personne d'autre.
France Musique, les grands entretiens de Stanislas de Barbeyrac.
Votre catégorie, c'est ténor lyrique.
Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça jusqu'à il y a quelques années.
Quand Lionel Sarrazin vous découvre,
alors quand
il découvre un ténor dont il entend qu'il sera lyrique.
Non, c'est ça qui est dingue. Il m'a toujours dit, ton répertoire, ça sera ça. C'est-à-dire ce que je vais chanter maintenant, là.
Wagner.
Il a toujours entendu. Mais le problème, c'est que quand on a 24 ballets, on ne peut pas chanter Lohengrin, et à moins d'avoir la voix du siècle, des voix du siècle, il y en a très peu, quoi. Mmh. Hein, ou des voix qui peuvent tout chanter, ou des voix qui peuvent chanter Wagner et Elden Tenor à 24 ans, chez les ténors, c'est quand même rare, quoi. Bon, bref. Mais il a toujours entendu cette patte vocale, cette possibilité d'évolution. Mais c'est vrai que moi, mes premières auditions... je chantais Max du Freischütz, j'avais 25 ans, les gens dans les concours, ils hallucinaient, ils disaient « mais il est taré ». Et pourtant, c'est des choses dans lesquelles je me sentais bien, j'étais pas parfait du tout, hein. Mais c'était une vocalité qui m'allait, et que quand je commençais à essayer de chanter un Tamino ou un Ferrando dans Cosi, tout le monde dit « faut chanter Mozart quand on est jeune chanteur », mais c'est très dur de chanter Mozart. Il faut avoir de la technique, il faut avoir de l'expérience, il faut connaître bien sa voix... Après, j'ai chanté beaucoup Mozart parce que j'ai aussi eu plus d'expérience, j'avais plus d'outils techniques dans ma besace, etc. Mais Lionel a toujours entendu que ma future voix, ce serait ça. Et il s'est pas trompé.
Et qu'est-ce que vous aimez chanter alors quand vous commencez?
On prend les highlights de ténor. Donc, il y a Rigoletto, il y a un Tamino qui traîne, il y a le trou vert, il y a la fleur que tu m'avais jetée. Et on se dit, alors ça me va, ça va. Questa o quella, ouais, je chantais ça quand j'avais 22 ans. Et voilà, on essaye tout, quoi. Parce qu'on a envie de goûter un peu à tout. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, moi, ça, c'est un peu léger pour moi. Et pourquoi Tamino, j'y arrive pas? Et puis, l'année d'après, on se dit, mais attends, c'est dingue, l'année dernière, j'y arrivais pas. Et là, j'y arrive très bien. Voilà, c'est la vie d'un chanteur, quoi.
Ouais, mais ça c'est pour que.
Et ça, c'est dur. Je me souviens que mes premières années de conservatoire, c'était dur. Et après, c'est allé assez vite, en plus. Je me suis retrouvé assez vite à Paris, à l'école de l'opéra. Avec finalement peu d'expérience à côté des gens qui étaient à côté de moi de la même promo, qui avaient déjà des expériences en Hochschule ou dans des universités américaines ou des trucs comme ça, qui avaient déjà fait de la scène, des rôles. Moi, j'avais rien fait.
Opéra Bastide.
J'avais fait Opéra Bastide. Et c'est vrai, vous avez raison, parce qu'en fait, c'est pas rien.
C'est
pas rien. Parce que moi, j'ai chanté Carmen en entier, la version de Peter Brook. J'ai chanté Don José, j'avais 2 ans de chant, quoi. J'y suis allé. Si j'entendais ça aujourd'hui, je trouverais ça dégueulasse, mais j'y suis allé. Avec Aude Extremo. Ouais. Il y a pas mal de gens d'Opéra Bastide qui font carrière. Hein. Et ça, c'est chouette, quoi. Et quand j'ai refait Carmen avec Aude à l'Opéra de Bordeaux, on a eu les larmes aux yeux. Parce qu'on avait fait ça comme deux pimpoy, sans expérience. On y est allé, on se faisait nos costumes, on allait chercher des costumes de l'American Store sur les quais pour trouver un tri. Enfin, c'était ça, quoi. Et donc quand on l'a fait tous les deux, c'était chouette.
Thank you.
Vous avez aimé votre voix dès le départ ?
Pas du tout. Je l'aime toujours pas, ma voix. C'est marrant, c'est une bonne question, parce que c'est des choses dont on parle pas trop entre chanteurs. Est-ce que t'aimes ta voix ? D'ailleurs, j'ai jamais posé cette question à un chanteur, parce que c'est hyper personnel. Moi, j'aime pas ma voix. J'aime pas m'écouter. En revanche, ce que j'apprécie de plus en plus, c'est peut-être qui je suis quand je suis dans un rôle. C'est ce qui me passionne de plus en plus.
L'incarnation ?
Ouais. Ce que je suis capable de donner, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qu'il faut dépasser comme limite pour être en accord avec moi-même, en accord avec le personnage, plus que le chant. Et je remarque que de plus en plus, quand je vais vers là, je ne pense plus au chant, et c'est là que mon chant me plaît. Parce que sinon, je suis trop cérébral, moi, avec la technique, avec faire attention, avec la couleur, avec le machin. Et que quand je dépasse le cadre du scolaire chanteur, grâce au personnage, grâce à l'incarnation, grâce à un metteur en scène qui m'a fait me dépasser, je trouve que là, mon chant me plaît parce qu'il est unique, en fait. Il me dépasse. Je me sers de mes outils, mais je ne m'en rends pas compte. C'est là que c'est beau, le chant.
Oui,
pour moi.
Parce que c'est devenu un personnage. Mais il y a, j'imagine, une forme de frustration ou même peut-être de douleur à travailler tellement quelque chose dont on n'aime pas forcément le rendu.
Ouais, c'est vrai, c'est un sacerdoce. Mais c'est normal parce que c'est là où ce métier est passionnant. C'est que cette conception que j'ai de ma voix m'oblige tout le temps à faire mieux ou à faire autre chose. Et c'est ça que j'aime, parce que je suis jamais content de moi-même.
Est-ce que c'est pour ça que vous parlez souvent de bruit plus que de son ?
Ouais, mais complètement. Complètement. Pour moi, le chant, c'est du bruit. Mais vraiment, ça, c'est ancré en moi depuis toujours. J'aime pas l'idée de son, parce qu'un son, c'est polissé, parce qu'un son, c'est travaillé. Alors évidemment, on se doit de le faire quand on chante, parce qu'on a une nuance qui est marquée, parce qu'on a envie de donner une émotion. Mais avant tout... Moi, les chanteurs en salle qui m'ont transporté, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu le bruit, l'essence de leur voix, un truc qui était crade, un truc qui était hors contrôle. Et ce hors contrôle, le grand chanteur, en fait, il le manie après bien. Il sent qu'il a un peu dérapé et il a l'outil pour que ça devienne beau. Et c'est ça que j'aime. Par exemple, pour ne citer que lui, hein, y en a plein d'autres qui m'ont donné cette émission, mais je me souviens de Jonas Kaufmann, quand il a chanté « Werther » à Bastille, c'était avec Sophie Koch, je crois. Et il y avait plein de sons comme ça chez lui. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas. Et je me souviens, j'étais étudiant à l'école de l'opéra et j'étais très haut, très loin. Et je me souviens que c'était dingue, ça m'avait foutu les poils. Et j'ai rarement les poils à l'opéra, je dois avouer. Et parce qu'il y avait un truc qui venait de... Je cite pas Jonas parce que c'est une superstar et que je l'aime pas forcément plus qu'un autre, hein, d'ailleurs. Mais c'est ces moments-là où un grand chanteur qu'il est, bah, ça dépasse le cadre du chant, même de l'acteur et tout. C'est parce qu'on entend l'essence, le bruit de ses cordes. C'est ça qui est dingue. Mais
est-ce que c'est pas parce qu'on entend ses fragilités ?
Mais oui, bien sûr. C'est oser se mettre à poil aussi devant 2500 personnes. C'est ça qui est chouette.
Frange sans tes
La voix de Jonas Kaufmann qui chantait Werther de Massenet à l'Opéra Bastille en 2010, dirigé par Michel Plasson. C'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Stanislas de Barbeyrac, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.